Paris, mercredi 24 février, journée d'action internationale. Pas de loi Uber en Europe. Et il y a les logos de tous les collectifs de livreurs à vélo, même d'Équateur. Glovers, Ecuador, entregadores antifascistas. Ni un repartidor menos. Entregadores do Breque. Ça, c'est brésilien. Se faire plateformiser. Travailler à la tâche au bon vouloir de l'algorithme d'une plateforme. C'est pas joli joli. Après les chauffeurs de taxi, nom de VTC, les livreurs de pizza, ou plutôt de sushi et de pokéball, même à la radio, ça peut nous arriver. Je ne me fais pas d'illusions. Alors quand Uber veut détruire les acquis sociaux, acquis des hautes luttes, et transformer le droit du travail à son avantage, il faut rester attentif. Combatif.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Ils font partie de la paix.
Vous avez les Argentins, ils sont en masse. Hein. Ils sont en masse sur les collectifs, c'est eux qui ont le plus de trucs.
On passe d'enregistrer, d'envoyer là-bas parce qu'on a un média en Argentine.
Faudra traduire.
Ouais. Ouais.
Yo puedo traducir si quieres.
Oh, gracias. Je sais dire hola todos.
Alors c'est vraiment une internationale, hein, des livreurs, ouais. Notamment à vélo ou pas que.
On dit livreur à vélo, maintenant c'est livreur tout court, hein, parce qu'il y a beaucoup de scooters. Mais c'est une internationale, oui, c'est parti de l'Amérique du Sud, parce que c'est des conditions de travail là-bas qui sont d'autant plus, beaucoup plus précaires que chez nous, il faut le savoir. Les lois du travail permettent aux plateformes de faire encore pire que chez nous. Les Nord-Américains ont été sensibilisés par rapport à la loi Uber qui est passée l'année dernière. Donc Uber a fait un lobbying fantasmagorique en fait avec 200 millions pour se payer une loi, hein, pour empêcher la loi de Californie qui disait que les chauffeurs, les livreurs devaient être considérés comme des salariés. Uber a fait un lobbying en fait phénoménal, ils ont mis 200 millions sur une table pour s'acheter un référendum, c'est-à-dire faire de la pub au niveau des citoyens californiens. Les citoyens californiens ont mordu à l'hameçon, ils ont fait en sorte que Uber puisse avoir une loi qui permet à cette société de pouvoir continuer à considérer ses chauffeurs comme des indépendants. Sauf que qu'est-ce qu'on voit ? On voit des entreprises comme Albertson, c'est une grande entreprise, l'équivalent de Carrefour, qui ont évidemment beaucoup de chauffeurs-livreurs. Ils virent leurs livreurs salariés et ils vont faire maintenant appel à des plateformes qui travaillent avec des indépendants. On imagine bien qu'une plateformisation de masse, avec une loi européenne poussée par Uber, ça bousillerait tout un tas d'emplois salariés en fait. Et donc, lutter contre cette loi-là, c'est évidemment défendre le modèle social, mais le modèle social pas français, mais le modèle social européen. Alors je m'appelle Jérôme Pimaud et je suis cofondateur, animateur du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris. On se bat depuis 2017 pour les livreurs notamment, mais aussi tous les travailleurs des plateformes. Hein. On est aujourd'hui avec les VTC notamment, qui sont aussi beaucoup concernés, qui sont très symboliques. Et donc on se bat contre l'espèce d'invincible armada que voudrait être l'Uber, et ses consoeurs dans ce qu'est le modèle social. C'est-à-dire que ces boîtes-là, considérant des travailleurs comme des indépendants, font en sorte de ne plus payer de cotisations sociales, font en sorte de pouvoir déconnecter les gars quand ils veulent. Quand la plateforme veut déconnecter, elle envoie un mail et puis c'est fini, plus de travail. L'autre fois, il y a un livreur Uber Eats qui a perdu son travail comme ça en un mail. Le type s'est suicidé, quoi. Sous prétexte de modernité, sous prétexte de numérique, en fin de compte, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ce nouvel outil numérique fait appel à des anciennes lois, c'est-à-dire des trucs du 19e siècle où on considérait que les travailleurs pouvaient être considérés comme des indépendants et on les faisait travailler pour le prix qu'on voulait, on en faisait ce qu'on voulait.
Les tâcherons, quoi.
Les tâcherons. Et donc, à partir de là, on peut en faire ce qu'on veut, il n'y a plus de droit du travail qui s'applique. Et vous imaginez ce que ça peut produire.
Un livreur qui klaxonne en passant.
C'est ça. Les livreurs s'arrêtent pas en fait, ils bossent, hein. C'est justement, ils sont indépendants, ils sont payés à la tâche, donc ils ont peut-être pas forcément le temps de venir en manif. Bon, il y a les VTC qui sont là parce que eux, ils sont beaucoup plus concernés par ces lois-là, parce qu'ils ont beaucoup plus à perdre, parce qu'ils ont beaucoup plus de charges. Les chauffeurs VTC, ils ont des grosses bagnoles, ils ont des assurances, ils ont du gasoil à payer. Et donc voilà, toute cette précarité, ils la subissent d'autant plus qu'un livreur peut-être en vélo qui a moins de charges, mais qui est lui beaucoup plus exposé au risque, au danger. Par contre.
Et c'est aujourd'hui que ça se joue, ou que ça commence à se jouer à la Commission européenne, quoi. Donc on est devant les bâtiments là.
C'est ça, on est aujourd'hui devant la représentation européenne à Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Bruxelles, voilà, la Commission commence à examiner les premiers projets de loi. Et donc oui, il faut envoyer un coup parce qu'il faut faire comprendre à ces gens-là, les gens de la Commission, que ce qu'ils sont en train de faire, oui, ils sont en train potentiellement d'ouvrir la boîte de Pandore. En fin de compte, c'est parti de l'Amérique du Nord à cause de la loi en Californie. Et puis, ça s'est répandu en Europe quand on a appris que le patron d'Uber, Dara Khosrowshahi, voulait faire du lobbying en Europe pour qu'en Europe soit la même loi qu'en Californie. En fin de compte, il veut faire en Europe un modèle californien.
Vous êtes mis à disposition pour la plateforme d'Uber sur place. Et on vous téléguide comme des Pokémon. Je suis désolé, c'est basé sur un jeu et on vous l'a dit à plusieurs reprises.
Les travaux de psychologie comportementale du professeur Burrhus Frederick Skinner débutèrent à Harvard en 1931. Il plaça dans une boîte d'abord des rats, puis des pigeons. À l'intérieur de la boîte, un mécanisme à levier, actionnable par l'animal. En appuyant sur ce bouton, l'animal reçoit en récompense une friandise sous forme de croquette. C'est ce bouton qui allait bouleverser le sort de l'industrie du jeu et plus tard des réseaux sociaux. Au début, les pigeons tâtonnent, puis comprennent très vite le lien de cause à effet. À chaque appui sur le levier bouton, ils reçoivent une ration. Mais contrairement à ce qu'on pouvait penser, les pigeons délaissent peu à peu le mécanisme. Non pas par lassitude, mais parce qu'ils le maîtrisent à la perfection. Ils ont compris. Rien ne sert d'entasser la nourriture quand elle est disponible à tout moment. Il n'y a plus d'urgence. L'action est fiable. Elle marche à tous les coups. Ils deviennent ainsi maîtres de la machine qui devait les contrôler. Par intuition, Skinner décide de préciser l'expérience. Il existe forcément un ressort psychologique pour forcer l'animal à rester scotché à la machine, pour qu'il y passe le plus de temps possible, et faire qu'elle devienne son obsession. Il devait donc déterminer la meilleure vulnérabilité comportementale, au point de rendre fous les pigeons, au point qu'ils passent le maximum de leur temps à appuyer sur le bouton.
Il y a Leila Shaibi qui arrive là avec son écharpe bleue, première élue européenne, qui arrive à ce rassemblement, peut-être la seule d'ailleurs qui va venir. Leïla ?
Ouais. J'ai l'habitude de la ramener, mon écharpe, dernièrement, quand les VTC se mobilisent, quand les livreurs se mobilisent. Et il se trouve que je suis députée européenne au Parlement européen. Et mon principal dossier sur lequel je me bats, c'est les droits des travailleurs des plateformes numériques, tels que les travailleurs d'Uber, de Deliveroo. Et à chaque fois qu'il y a une mobilisation comme celle-là, moi, ça m'aide quand je suis à Bruxelles, quand je suis dans l'hémicycle, quand je suis en train de batailler vis-à-vis de la Commission européenne. Ça m'aide, en fait, quand il y a des mobilisations. Parce que là-bas, celui qui est plus puissant que les VTC ou les livreurs, c'est Uber. Hein. Vous savez qu'à l'Union européenne, les lobbies sont un peu comme chez eux. Ces derniers jours, on sent clairement que le patron d'Uber, il a lancé une grosse offensive. Il fait la tournée des popotes bruxelloises avec un livret de 32 pages qui s'appelle « A Better Deal ». Où il explique que sous prétexte de faire valoir l'intérêt des travailleurs, eh ben, il faut légaliser la situation actuelle, inventer un troisième statut. En gros, il veut modeler le droit à son image, comme il a réussi à le faire en Californie, où Uber, à coup de carnet de chèques, a réussi à annuler une loi qui l'obligeait à assumer sa responsabilité d'employeur. Là, il se dit, la Commission européenne ouvre un chantier sur les travailleurs des plateformes, alors que, en fait, l'idée, c'est de dire, bon, ben, vous avez des travailleurs, là, que ce soit les VTC ou que ce soit les livreurs à vélo, qui sont officiellement indépendants. Mais en fait, quand on regarde de près, ils n'ont aucun des avantages des indépendants. C'est pas eux qui fixent leurs tarifs, c'est pas eux qui décident de comment ils travaillent. Et ils ont tous les inconvénients du salariat, c'est-à-dire un patron au-dessus, donc qui décide de tout, sans avoir les avantages et la contrepartie du lien de subordination du salariat, c'est-à-dire le droit au congé payé, le salaire minimum. Et donc cette situation, elle pose problème. Il faut l'encadrer. Et ce que veut le patron d'Uber, bah, c'est la légaliser, tout simplement. Et donc c'est hyper important, là, dans les semaines qui viennent, il y a un gros rapport de force qui joue, qui va être décisif. Et à la fin, c'est soit le patron d'Uber qui va gagner, soit les gens qui sont là aujourd'hui au rassemblement. Et moi, quand je suis à Bruxelles, ça m'aide beaucoup quand il y a des mobilisations comme ça pour faire pression vis-à-vis de la Commission, pour faire contrepoids au lobbying d'Uber.
Et cette loi Uber, c'est aussi un cheval de Troie pour détricoter le droit du travail.
Complètement, parce que la question, elle est bien évidemment pour les travailleurs des plateformes eux-mêmes. Elle va au-delà. Elle va au-delà des VTC, au-delà des livreurs à vélo. Parce que demain, s'il existe un statut entre le statut de travailleur et d'indépendant, avec pour le travailleur les inconvénients des deux côtés et pour l'employeur les avantages des deux côtés. En gros, vous avez des gens sous vos ordres, mais vous n'avez pas assumé votre responsabilité d'employeur. Ben demain, pourquoi ce ne serait pas utilisé par les supermarchés, par les banques, comme c'est déjà le cas, hein. Moi, il y a quelques mois, là, j'étais allé soutenir des salariés de Monoprix et là, j'apprends que, en fait, pendant le confinement, Monoprix a décidé de remplacer une partie de ses salariés avec des contrats de travail, CDD ou CDI, par des jeunes sous statut de micro-entrepreneurs qui passaient par la plateforme StaffMe, donc indépendant. Donc c'est pratique comme ça, Monoprix n'assume pas la responsabilité d'employeur. Sauf qu'actuellement, il y a moyen de faire des recours devant les tribunaux et de dire « Non mais regardez là, il y a toutes les caractéristiques du lien de subordination quand je vais travailler. » Donc le juge requalifie en contrat de travail. Demain, s'il y a ce troisième statut qui existe, c'est super dangereux, ce sera une catastrophe pour l'ensemble du monde du travail parce que ça pourra être utilisé par tous les employeurs pour s'exonérer de leur responsabilité d'employeur tout en ayant des gens à leurs ordres. Et ça, ça s'appelle l'esclavage. Et toute l'histoire du salariat, justement, c'est l'histoire de comment on a construit la contrepartie aux liens de subordination qui sont les droits, le droit du travail et la protection sociale. Et là, on veut légaliser, relégaliser l'esclavage avec ce troisième statut. Donc évidemment, l'enjeu, donc, il va au-delà des travailleurs des plateformes numériques. Ouais. En fait, nous, les parlementaires européens, on n'a pas le droit d'écrire directement la loi, d'écrire directement la loi européenne. On doit attendre que la Commission européenne nous fasse une proposition. Donc là, c'est tout l'enjeu en ce moment, c'est qu'est-ce qu'elle va nous proposer, quoi. Et c'est là qu'il y a le rapport de force. Et donc moi, j'en avais marre d'attendre que la Commission nous envoie son premier jet de directive. Donc j'ai écrit, bon, pas toute seule, hein, avec des experts de l'ubérisation, une proposition de directive, donc qui peut être appliquée de la directive. Donc c'est la loi européenne qu'ensuite les États membres de l'Union européenne ont 3 ans pour transposer dans la loi. Et donc, cette proposition de directive, elle peut être appliquée dès demain, copier-coller par la Commission, et elle permettrait à tous les travailleurs des plateformes, à partir du moment où ils exercent leur activité avec une plateforme qui détermine les tarifs, qui influe sur la... Enfin voilà, où il y a un lien de subordination, d'être reconnus comme travailleurs et d'avoir accès aux mêmes droits que tous les travailleurs dans tous les États membres de l'Union européenne. Donc en gros, à la fin de la consultation, il y a deux issues. C'est soit la loi de Dara Khosrowshahi, donc c'est un nom assez compliqué à prononcer, mais
le patron d'Uber, quoi.
Ouais, le patron d'Uber. C'est soit la loi du patron d'Uber qui passe, soit on fait valoir l'intérêt des travailleurs, on a une loi qui protège les travailleurs.
C'est donc... quoi votre parcours politique? Parce qu'on s'est croisé souvent hein, dans les manifs contre la loi travail. Oui. Hein. Et là, aujourd'hui, à l'Assemblée, justement à Bruxelles, comment continue le combat dans ces assemblées-là, quoi?
Eh ben, on le continue, ouais, en fait. Pour moi, c'est une continuité par rapport à tout ce que j'ai fait avant. C'est vrai que moi, pendant des années, là, c'est la première fois que je suis élue, c'est la première fois que j'ai un mandat politique. J'ai toujours milité en parallèle de ma vie professionnelle, enfin bénévolement. Et j'ai été engagée pendant des années. D'ailleurs, j'ai commencé mon engagement sur les questions de précarité et de droit au logement, mais aussi de précarité. Et en fait, l'ubérisation, c'est aussi une nouvelle façon de... Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était les stages. Donc à chaque fois, c'est comment le capitalisme va inventer des stratégies de contournement pour ne pas appliquer ses responsabilités. Il y avait les stages, l'intérim, et là, maintenant, il y a l'ubérisation. Donc c'est un peu dans la continuité. Et en fait, il n'y a pas un engagement, il n'y a pas le militantisme de terrain qui est plus important que le militantisme politique ou inversement, comme le militantisme institutionnel, que l'un a besoin de l'autre, quoi. Encore une fois, enfin... Quand je vais voir le commissaire à l'emploi aux affaires sociales, si je lui dis juste « Ah, j'ai réfléchi dans mon coin, j'ai écrit une proposition de directive », voilà, il va me dire « Ok, c'est bien, je lirai, et puis à plus ». Si je lui dis « Ah ben ouais, mais je l'ai écrit, puis d'ailleurs, on a fait venir, comme ça a été le cas en décembre 2019, 80 coursiers à vélo de toute l'Europe qui ont débarqué dans le Parlement européen. Là, on attend avec impatience que le Covid soit fini pour organiser l'édition numéro 2. Ils vous attendent au tournant, et là, on organise un rendez-vous avec vos services pour qu'ils vous expliquent ce qui se passe. Et là, demain, ils vont être 50 devant la commission. Là, ça change. Et là, on sent qu'ils ne nous regardent pas pareil, quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Bruxelles, on a toujours tout de suite un peu, limite, peut-être complexé, hein, parce qu'il y a des gens dont c'est le sixième mandat, on ne comprend rien. Enfin, déjà, j'ai dû prendre des cours d'anglais, quoi. Là, on se rend compte que nous, les Français, on est un peu les plus nuls en langue. Enfin, il y a les Espagnols aussi pour rattraper le niveau, mais... Et du coup, il y a une espèce de complexe, en fait, un sentiment un peu d'imposture. Et en fait, rapidement, je me rends compte que ce qui fait ma force, quoi, en quelque sorte, quoi, c'est justement la pratique du terrain, quoi. Le lien avec le terrain, la légitimité plus de... d'être en lien avec les réseaux dont je parle, que ce soit sur l'ubérisation, sur la question du logement d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est une force quand on est avec des gens qui ont plein d'autres qualités, hein, mais qui, pour le coup, ont passé toute leur vie dans les instances européennes.
Un peu déconnecté de la rue, quoi.
Un petit peu, voilà, ouais. Et là, c'est bien parce qu'il y ait un réseau international de travailleurs qui s'empare de ces enjeux-là, qui a bien compris tout ce qui se tramait. Alors que je pense que le patron d'Uber, par exemple, il aurait préféré continuer de faire ça un peu dans l'ombre, voilà, dans les couloirs, quoi.
Voilà. Voilà les VTC à pied.
Uber, paye ta TVA.
Afin de compter. par les pigeons à actionner le mécanisme, Skinner décide de modifier non pas la récompense elle-même, mais sa fréquence. La seconde expérience commençait comme la première. Il fallait d'abord que les pigeons comprennent qu'à chaque fois qu'ils actionnaient le mécanisme, une croquette tombait. Mais au bout de quelques temps, ils changeaient les règles et faisaient varier de manière complètement aléatoire la quantité de croquettes obtenues à chaque appui. Une croquette, trois croquettes, dix croquettes, aucune croquette. Rien n'était jamais pareil, rien n'était prévisible. Le pigeon aurait pu se lasser, mais c'est tout le contraire qui se produisit. Skinner constata une augmentation spectaculaire du nombre d'interactions entre l'animal et le bouton. Même rassasiés, les pigeons finirent par picorer le levier plus de 2,5 fois par seconde pendant 16 heures d'affilée, obtenant ainsi une récompense inférieure à 1% du temps passé. Obsédé par la possibilité d'une récompense, l'animal refusait d'abandonner. La nourriture devenait secondaire. Il était accro au bouton, à l'appât du gain même minuscule. Burrus Frederick Skinner meurt en 1990. Un an après l'invention du web. C'est au travers du réglage minutieux des machines à sous que ses travaux trouvent le plus d'écho. Mais 15 ans plus tard, il est apparu logique que ce qui fonctionnait avec les machines à sous pouvait faire le succès des applications. D'autant que c'est uniquement le temps qu'on y passe qui en fait la valeur. Tel un pigeon qui espère obtenir une nouvelle croquette, l'humain appuie sur le bouton et relance l'application le plus souvent possible, avec l'ultime espoir de voir apparaître une vue, un like, un partage, un commentaire.
Alors moi je suis Laurent Dubousset, je suis co-délégué de la Fédération Sud Commerce.
On parle de plateformisation, est-ce que c'est une nouvelle aliénation du travailleur ?
C'est une nouveauté en fait très ancienne. Le but c'est renvoyer le monde du travail à ses origines, c'est-à-dire au 19e siècle, avant l'instauration du salariat et de toutes les garanties, en particulier les garanties collectives qui vont avec et la protection sociale. On est justement à un carrefour, c'est-à-dire qu'on a la justice, les tribunaux à différents niveaux en France, que ce soit Conseil des Prud'hommes, Cour d'appel, Cour de cassation ou des cours nationales encore récemment en Angleterre, qui est quand même un pays très marqué par le libéralisme, qui globalement donne satisfaction à ces travailleurs. Et de l'autre, effectivement, les plateformes, à commencer par la première d'entre elles, Uber, ok, qui fait un lobbying de dingue pour en fait tordre la loi, la modifier en sa faveur et donc avaliser ce statut de travailleur prétendument indépendant. Ce qui joue très clairement, c'est l'avenir du monde du travail. C'est-à-dire, est-ce que dans quelques années, on nous parle d'une économie, alors en plus ça va s'accélérer avec évidemment l'affaire du Covid, où beaucoup de métiers de toute façon vont disparaître, hein. La fameuse destruction créatrice mise en avant par certains, mais au même titre que est-ce que le monde d'après risque d'être pire que le monde d'avant, on va sans doute vers un monde entre guillemets post-salariat qui une nouvelle fois renvoie aux formes d'exploitation les plus crasses qu'on a pu connaître il y a maintenant deux siècles quoi.
C'est bientôt demain, on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne ou en podcast pour un nouvel instantané sonore et social.